Chapitre 37. Si Hockenberry s'est rendu dans la bulle d'astrogation, c'est pour se confronter à Odysseus, quitte à subir une correction de sa part, mais il finit par se prendre une cuite en sa compagnie. Il lui a fallu plus d'une semaine pour rassembler le courage nécessaire à une telle démarche. Et lorsqu'il se décide à aller retrouver le seul autre passager humain de la reine Mab, celle-ci a atteint son point de retournement et les Moravec l'ont avisé que le spationef se trouvera en gravité zéro 24 heures durant, après quoi débutera la phase de décélération, au cours de laquelle les bombes se remettront à exploser jusqu'à ce que la pesanteur apparente atteigne à nouveau 1,28 G. Manmut et le prime intégrateur Astikche sont venus s'assurer que sa cabine était prête, les coins des meubles sont capitonnés, les objets rangés dans les placards, on lui a fourni des sandales velcro et tapis adaptés, mais personne n'a averti Hockenberry que la pesanteur risquait de lui filer le mal de mer. Et ça ne loupe pas, évidemment. Son oreille interne lui hurle qu'il est en train de chuter, il n'a aucun horizon auquel se raccrocher, sa cabine n'est même pas équipée d'un hublot, et comme sa salle de bain est conçue pour fonctionner à 1,28 G d'accélération, il a vite fait de maîtriser l'usage des sachets à vomi que Manmut s'empresse de lui apporter dès qu'il sent venir une nouvelle crise. Au bout de 6 heures de nausée, toutefois, le scoliaste commence à se sentir un peu mieux et prend même quelque plaisir à bondir de sa couchette scellée au sol jusqu'à son bureau qui ne l'est pas moins. Puis il demande la permission de quitter sa cabine, permission qui lui est accordée sur le champ, et s'amuse comme un petit fou à voler le long des interminables coursives, à bondir de palier en palier sur les larges escaliers, si ridicules dans un monde désormais tridimensionnel, et à se déplacer comme un singe dans le dédale de la salle des machines, sautant d'une prise crampon à l'autre sans se lasser. Manmut ne le perd pas de vue un seul instant, de crainte qu'il ne touche un levier ou oublie que le poids et la masse sont deux notions différentes. Lorsque Hockenberry lui fait part de son désir de voir Odysseus, le petit Moravec lui dit que le grec se trouve dans la bulle d'astrogation et le conduit jusque-là. Hockenberry sait qu'il devrait prier Manmut de les laisser seuls, ce qui va se passer entre les deux hommes, échange de vues ou passage à tabac, relève de la sphère privée, mais il décide de n'en rien faire. Le Moravec ne manquera pas d'intervenir si Odysseus menace de le corriger pour le punir de l'avoir kidnappé sur le champ de bataille. La bulle d'astrogation consiste en une table ronde flottant au sein d'un océan d'étoiles. 3 sièges lui sont reliés, mais Odysseus n'en utilise qu'un seul, s'y cramponnant grâce à ses pieds nus coincés entre les lattes. Chaque fois que la reine Mab bascule ou pivote sur son axe, ce qu'elle fait fréquemment durant ses 24 heures de manœuvre, les étoiles sont prises d'un tournis qui, quelques heures plus tôt, aurait précipité Hockenberry vers ses chers sacs à vomi. À présent, il a l'impression d'avoir passé toute sa vie en chute libre. Odysseus doit être dans les mêmes dispositions, se dit-il, car l'Achéen a vidé 3 des 10 gourdes de vin attachées à la table par des lanières. Il passe l'une d'elles à son visiteur en la propulsant d'une pichenette, et bien qu'il ait l'estomac vide, Hockenberry ne peut qu'accepter ce qui ressemble à une offre de réconciliation. Qui plus est, ce vin est excellent.
« Les artifices le font fermenter et bonifier dans une cave de ce navire sans dieu », explique Odysseus. « Bois, ô artifice humain. Rejoins-nous donc. Moravec. »
Manmut, qui s'est posé sur l'un des sièges, décline cette proposition d'un signe de sa tête métallique. Hockenberry présente ses excuses à Odysseus, expliquant que c'est à cause de lui qu'il a été embarqué de force dans un frelon, puis à bord de ce vaisseau. Odysseus évacue la chose d'un geste de la main.
« J'ai pensé à te tuer, fils de Duan. Mais à quoi cela aurait-il servi? Selon toute évidence, les dieux ont décidé que je m'embarquerais pour ce long voyage. » Et il ne m'appartient pas de défier la volonté des immortels.
Tu crois encore aux dieux? Demande Hockenberry en sirotant une longue gorgée de vin capiteux. Même après leur avoir fait la guerre? Le stratège barbu plisse le front, puis sourit en se frottant la joue.
Il est parfois difficile de croire en ses amis, Hockenberry, fils de Duan. Mais on doit toujours croire en ses ennemis. En particulier si on a le privilège de compter les dieux parmi eux.
Ils boivent en silence pendant 1 minute. Le vaisseau effectue une nouvelle rotation. Un soleil aveuglant occulte les étoiles l'espace d'un instant, puis elles réapparaissent quand le spationef change d'orientation. L'alcool imbibe Hockenberry d'une chaleur bienfaisante. Il est heureux d'être vivant. Sa main se porte à son torse, se pose sur le médaillon têtu, mais aussi sur la cicatrice de plus en plus ténue qui lui barre la peau. Et soudain, il se rend compte qu'après avoir vécu 10 ans parmi les Grecs et les Troyens, c'est la première fois qu'il a l'occasion de boire un coup et de tailler une bavette avec l'un des héros de l'Iliade. Lui qui a passé tant d'années à enseigner cette épopée à ses étudiants. Les deux hommes discutent quelque temps des événements auxquels ils ont assisté avant de quitter la terre d'Ilium et les contreforts d'Olympos. La fermeture du trou entre les mondes, l'inégal combat ayant opposé les Amazones aux hommes d'Achille. Le guerrier est surpris de découvrir l'étendue des connaissances du scoliaste en matière d'Amazone, mais Hockenberry s'abstient de lui préciser sa dette envers Virgile. Tous deux s'interrogent sur la tournure que va prendre la guerre, se demandant si les Argiens et les Achéens, de nouveau placés sous le commandement d'Agamemnon, vont enfin réussir à faire tomber les murailles de Troie.
Agamemnon a peut-être la force nécessaire pour détruire Ilium,
dit Odysseus en contemplant les étoiles tournoyantes.
Mais si cela ne lui suffit pas, ce n'est pas la ruse qui l'y aidera.
La ruse? Cela fait si longtemps qu'Hockenberry parle et pense en grec ancien qu'il lui arrive rarement de s'interroger sur un mot. Mais c'est pourtant ce qu'il fait. Odysseus a utilisé le mot dolos, qui signifie bien ruse, mais peut être interprété de façon péjorative. Odysseus opine.
Agamemnon est Agamemnon. Tous le voient pour ce qu'il est, car il ne peut rien de plus. Mais je suis Odysseus, et le monde me connaît pour ma ruse.
Entendant à nouveau le mot dolos, Hockenberry comprend qu'Odysseus se vante de son talent pour la ruse, voire la duplicité, qui a naguère poussé Achille à déclarer, Hockenberry était là, ayant endossé l'aspect du vieux phénix, celui-là met en horreur à l'égal des portes d'Hadès qui dans son cœur cache une chose et sur les lèvres en a une autre. Cette insulte n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd, mais Odysseus avait préféré ne pas réagir. Aujourd'hui, cependant, avec 4 gourdes de vin dans le nez, le fils de Laërte n'hésite pas à louer sa propre intelligence. Hockenberry se demande alors, pour la énième fois, réussiront-ils à prendre Troie sans Odysseus et son cheval de bois? Il ne peut s'empêcher de sourire en pensant à toutes les nuances du mot dolos.
Pourquoi souris-tu, fils de Duan? J'ai dit quelque chose de drôle?
Non, non, honorable Odysseus, dit le scoliaste. Je pensais à Achille et...
Il laisse sa phrase inachevée, de peur de fâcher son interlocuteur.
J'ai rêvé d'Achille cette nuit, dit Odysseus.
Sans le moindre effort, il tourne sur lui-même afin d'embrasser du regard la sphère piquetée d'étoiles qui les entoure. La bulle d'astrogation donne également sur la coque de la reine Mab, mais le métal et le plastique reflètent surtout le firmament.
J'ai rêvé que je parlais avec Achille dans l'Hadès.
Le fils de Pélée est donc mort ?
Demande Hockenberry en ouvrant une nouvelle gourde de vin. Odysseus hausse les épaules.
Ce n'était qu'un rêve. Les rêves ne reconnaissent pas les frontières du temps. J'ignore si Achille est encore de ce monde ou s'il erre déjà parmi les ombres. Mais il est certain que l'Hadès sera un jour sa demeure. Comme il en va pour chacun de nous.
Ah ! Fait Hockenberry.
Et que t'a dit Achille dans ce rêve ?
Odysseus tourne à nouveau vers lui ses yeux noirs.
Il voulait que je lui parle de son fils Néoptolème. Il voulait savoir s'il s'était illustré face aux guerriers de Troie.
Et que lui as-tu répondu?
Que je n'en savais rien. Que la destinée m'avait emporté loin des murailles d'Ilium avant que Néoptolème ait rejoint nos rangs. Cela n'a pas satisfait le fils de Pélée.
Hockenberry acquiesce. Il imagine aisément l'agacement d'Achille.
« J'ai tenté de le réconforter, » poursuit Odysseus, « de lui dire que les Argiens l'honoraient ainsi qu'un dieu à présent qu'il était mort, que toujours les hommes chanteraient ses hauts faits. Mais il n'a rien voulu entendre. »«
Ah bon ?»
Ce vin n'était pas excellent, il était somptueux. La chaleur s'épanouissait comme une fleur dans le ventre d'Hockenberry, qui avait l'impression de flotter encore plus librement que ne le permettait la gravité zéro.
« Non. » Il m'a dit de reprendre mes fleurs et de me les carrer dans le cul.
Hockenberry recrache son vin en s'esclaffant. Bulles et perles rouges flottent autour de lui. Il veut les chasser de la main, mais elles éclatent et il se retrouve avec les doigts tout poisseux. Odysseus n'a pas quitté les étoiles des yeux.
L'ombre d'Achille m'a dit cette nuit qu'il préférait être valet de bœuf chez un pauvre fermier, les mains calleuses d'avoir manié le soc plutôt que l'épée, à passer toutes ses journées le nez derrière le cul d'un bestiau, plutôt que d'être le plus valeureux des héros de l'Hadès, voire le souverain de ce royaume avec des spectres pour sujet. Achille n'apprécie guère la mort.
Non, fait Hockenberry. Cela ne m'étonne guère.
Odysseus fait une pirouette, agrippe le dossier de son siège et fixe le scoliaste.
Je ne t'ai jamais vu te battre, Hockenberry. Est-ce que tu te bats quelquefois?
Non.
Odysseus opine.
Voilà qui est sage, très sage. Tu dois être issu d'une lignée de philosophes.
Mon père s'est battu.
Hockenberry est tout surpris de voir affluer ses souvenirs. Pour autant qu'il le sache, il n'a pas une seule fois pensé à son père durant les 10 années de sa seconde vie.
« Oh cela ?» demande Odysseus. « Lors de quelle bataille ? Peut-être que j'y ai participé. »«
À Okinawa. » »«
Je ne connais point cette bataille. »«
Mon père lui a survécu, »
dit Hockenberry la gorge serrée.
« Il était tout jeune. Il avait 19 ans. Il était dans les Marines. » Il est rentré à la maison la même année, et je suis né 3 ans après. Il ne parlait jamais de cela.
Il ne s'est jamais vanté de son courage? Il n'a jamais décrit la bataille à son fils?
Demande Odysseus, incrédule.
Pas étonnant que tu sois devenu un philosophe plutôt qu'un guerrier.
Il n'en parlait jamais. Je savais qu'il avait fait la guerre, mais je n'ai appris que plus tard qu'il avait participé à la bataille d'Okinawa. Lorsque j'ai lu une de vieilles citations rédigées par son officier supérieur, un lieutenant à peine plus âgé que lui. J'ai retrouvé ses documents, ainsi que ses médailles, dans un coffre après sa mort. J'étais sur le point de décrocher mon doctorat en lettres classiques, et je savais comment mener des recherches, si bien que j'ai découvert pas mal de choses sur la bataille qui a valu à mon père d'être décoré d'un Purple Heart et d'une Silver Star.
Odysseus ne l'interroge pas sur ses étranges récompenses. Il se contente de lui demander «
Père s'est-il bien conduit, fils de Duan ? » ?»«
Je le pense. Il a été blessé à 2 reprises le 20 mai 1945, alors qu'il tentait de prendre un lieu dénommé Sugarloaf Hill, sur l'île d'Okinawa.
« Je ne connais point ce lieu, je te le répète. »«
Cela ne m'étonne guère. » »« Cette île est très éloignée d'Ithaque. » »«
Combien de guerriers ont pris part à cette bataille ?»«
Dans le camp de mon père, on comptait 183 000 habitants. »
répond Hockenberry, qui s'abîme à son tour dans la contemplation des étoiles.
« Plus de 1600 navires ont été nécessaires pour acheminer cette armée sur l'île d'Okinawa. 110 000 soldats ennemis les y attendaient, retranchés dans la roche et dans le corail. »
« Il n'y avait donc pas de cité à assiéger ?»
Depuis le début de leur conversation, c'est la première fois qu'Odysseus semble intéressé par les propos du scoliaste.
« Non, pas de cité à proprement parler. » Ce n'était qu'une bataille parmi tant d'autres, dans le contexte d'un conflit global. Des guerriers ennemis voulaient tuer les nôtres afin de les empêcher d'envahir leur royaume insulaire. Nos soldats les ont oxydés de toutes les façons possibles. Ils les ont brûlés dans leurs grottes, ils les y ont enterrés vivants. Sur 110 000 Japonais, mon père et ses camarades en ont tué plus de 100 000. Il boit un coup. Les Japonais étaient alors nos ennemis.
« Une victoire glorieuse !»
commente Odysseus. Hockenberry émet un petit bruit.
« Les nombres que tu récites, les hommes comme les navires, me rappellent notre guerre contre les Troyens, »
reprend l'Argien.
« Oui, la ressemblance est indéniable. Sans parler de la férocité des combats. Des combats singuliers, jour et nuit, sous la pluie, dans la boue.
Ton père est-il revenu avec un riche butin, des esclaves, de l'or ?»
Il a rapporté un sabre de samouraï, celui d'un officier ennemi. Mais il l'a enfermé dans son coffre et ne me l'a jamais montré durant mon enfance.
Parmi les camarades de ton père, combien ont été envoyés dans l'Hadès?
12 520 Américains ont péri, fantassins et marins confondus,
répond Hockenberry qui a gravé ces chiffres dans son esprit d'érudit et dans son cœur de fils.
Les blessés étaient au nombre de 33 631. L'ennemi, comme je l'ai déjà dit, a perdu plus de 100 000 hommes, qui ont péri brûlés vifs et enterrés vivants dans les cavernes et les terriers qu'il s'était creusés.
Nous autres, Achéens, avons perdu plus de 25 000 camarades devant les murailles d'Ilium,
dit Odysseus.
Les Troyens ont célébré les funérailles d'un nombre au moins égal de leurs soldats.
Ouais,
fait Hockenberry avec un petit sourire.
Mais votre guerre a duré 10 années. La bataille d'Okinawa n'a duré que 90 jours.
Le silence se fait. La reine Mab effectue une nouvelle rotation, aussi souple, aussi majestueuse qu'un mammifère marin roulant sur lui-même en nageant. Le soleil les éblouit un bref instant, les obligeant tous deux à se protéger les yeux. Puis les étoiles reviennent occuper le ciel.
« Je m'étonne de n'avoir jamais entendu parler de cette guerre, » dit Odysseus en tendant une nouvelle gourde au scoliaste. « Mais tu dois être fier de ton père, fils de Duan. Ton peuple a dû fêter les vainqueurs comme des dieux. On a dû composer en leur honneur des épopées qui seront chantées pendant des siècles. Les noms de ces valeureux guerriers seront familiers aux petits-enfants de leurs petits-enfants. Les Aèdes chanteront sans se lasser leurs combats les plus éprouvants, leurs morts les plus héroïques.
« En fait, » dit Hockenberry en avalant une goulée de vin, « la quasi-totalité de mon peuple a déjà tout oublié de cette bataille. »«
Tu reçois tout ceci ?»
demande Manmuth sur le faisceau cohérent.
« Oui. »
Orfudio se trouve sur la coque de la Red Mab, ainsi que tous les autres Moravec configurés pour le vide spatial, profitant des 24 heures de gravité zéro pour procéder à des inspections et réparer les dégâts infligés par les micrométéorites, les éruptions solaires et les bombes à fission qui leur servent de moyens de propulsion. Il est certes possible d'effectuer de tels travaux pendant le reste du trajet. Orfu a fait plusieurs sorties durant les deux semaines écoulées, se déplaçant sur les échelles et les galeries aménagées à cet effet, mais l'Ionien a publiquement déclaré qu'il ne goûtait guère la sensation de se trouver sur la façade d'un immeuble de 100 étages auquel l'accélération conférait un haut et un bas nettement perceptibles.
« Hockenberry a l'air saoul, »
dit-il à Manmuth.
« Tu ne te trompes pas, »
répond celui-ci.
« Le vin qu'Astikche a fait reproduire par la coquerie est un breuvage puissant, élaboré à partir d'un échantillon de vin médic prélevé dans la cave d'Hector. » Ça fait des années qu'Hockenberry en consomme en compagnie des Grecs et des Troyens, mais le plus souvent avec modération, les Grecs ont l'habitude de le couper d'eau. Parfois, ils y ajoutent même un peu de sel, voire de la myrrhe.
Ça, c'est barbare ou je ne m'y connais pas,
raille Orfu.
En plus, notre scoliaste n'a rien mangé depuis qu'il a souffert du mal de l'espace. Alors il ne risque pas de rester sobre en gardant l'estomac vide.
Il va sûrement nous faire une nouvelle crise.
Dans ce cas,
émet Manmuth,
c'est à ton tour de lui apporter une provision de sac. Ça fait 24 heures que je lui tiens la main chaque fois qu'il dégobille.
Oh zut, j'aimerais vraiment me charger de cette corvée, mais je ne pense pas que les coursives des niveaux humains soient assez larges pour me laisser passer.
Un instant, écoute ça.
Aimes-tu les jeux, fils de Duan?
Les jeux?
Répète Hockenberry.
Quel genre de jeux?
Les jeux auxquels on se livre lors d'une célébration ou après des funérailles. Les jeux que nous aurions organisés en l'honneur de Patrocle, par exemple, si Achille avait accepté son trépas et nous avait autorisé à tenir une cérémonie à sa mémoire.
Hockenberry reste silencieux une minute, puis demande
« Tu veux parler du lancement de disques, du javelot, ce genre de choses ?»«
Oui, » fait Odysseus, « plus la course de chars, la course à pied, la lutte et le pugilat. »
J'ai vu des matchs de pugilat que vous organisez dans votre campement, à proximité des nefs noires,
dit Hockenberry d'une voix qui commençait à grillonner.
Les hommes se battent les poings enveloppés de courroies de cuir.
Rire d'Odysseus.
Que voudrais-tu qu'il fasse, fils de Duan? Qu'il les protège avec des coussins?
Hockenberry fait celui qui n'a pas entendu.
L'été dernier, j'ai vu Epeio s'affronter une douzaine d'hommes, leur cassant le nez, les côtes ou les mâchoires. Il relevait tous les défis qu'on lui lançait, et il s'est battu de midi à minuit.
Odysseus sourit de toutes ses dents.
Je me rappelle ces combats. Personne n'a résisté au fils de Panopée ce soir-là, et pourtant ils furent nombreux à tenter leur chance.
Deux de ses adversaires ont péri.
Odysseus hausse les épaules et sirote un peu de vin.
Diomède avait entraîné contre lui Euryal, fils de Mécisté, un officier d'Argolide. Il le faisait courir chaque matin avant l'aurore et l'encourageait à se durcir les poings en frappant des quartiers de bœufs fraîchement abattus. Mais Epeios l'a sonné en 20 reprises ce soir-là. Diomède a dû le traîner hors de l'arène et les orteils de ce pauvre Rial ont laissé 10 sillons dans le sable. Mais il a survécu. Mais la prochaine fois, ce crétin pensera à ne pas baisser sa garde.
« La boxe est une sale entreprise, »
cite Hockenberry,
« et si on la pratique assez longtemps, on a la tête qui se transforme en musical jouant en permanence de la musique chinoise. »
Odysseus éclate de rire.
« Très drôle! Qui a dit cela ?
un sage du nom de Jimmy Cannon.
Mais qu'est-ce que la musique chinoise ? Demande Odysseus sans cesser de glousser. Et un music hall ?
Peu importe.
Tu sais,
durant toutes ces années que j'ai passées à observer la guerre, je me souviens pas qu'Épéos se soit jamais distingué lors d'une aristeia, d'un combat singulier sur le champ de bataille.
En effet, acquiesce Odysseus. Il reconnaît lui-même qu'il n'a rien d'un foudre de guerre. Il faut un certain type de courage pour affronter un homme à main nue, et un autre pour lui planter sa javeline dans le ventre, puis la retirer afin d'en faire ressortir ses tripes pour qu'elle soit sur le sable comme de l'ordure.
Mais toi, tu en es capable, déclare Hockenberry d'une voix neutre.
Oh oui, telle est la volonté des dieux. Je fais partie d'une génération d'Achéens dont Zeus a décrété qu'il se ferait la guerre sans trêve ni repos, de la jeunesse à l'âge d'homme, jusqu'à ce qu'ils aient tous péri. Tous, jusqu'au dernier.
Un optimiste, notre Odysseus, commente Orphu.
Un réaliste,
rétorque Manmut.
Mais tu parlais des jeux, dit Hockenberry. Je t'ai vu combattre et gagner à la lutte, et aussi à la course à pied.
Oui, plus d'une fois j'ai remporté la coupe à cette épreuve. Alors qu'Ajax devait se contenter du bœuf. Athénée m'a bien aidé. Elle faisait un croc en jambe à ce balourd afin que je sois le premier à franchir la ligne. Et j'ai aussi triomphé d'Ajax à la lutte, lui glissant un pied derrière le genou pour le faire chuter et le clouant au sol de tout mon poids avant que cet idiot ait compris ce qui lui arrivait.
Est-ce que cela fait de toi son supérieur ?
Demande Hockenberry.
Bien sûr que oui, tonne Odysseus. Que deviendrait le monde s'il n'y avait pas l'agone, l'éternel combat entre les hommes, pour décider d'une hiérarchie du genre humain? Car il en va des hommes comme des choses. Il n'y en a pas deux qui soient semblables. Comment pourrions-nous juger de notre qualité si le combat et la compétition ne nous permettaient pas de trier l'excellence de la médiocrité? Quels sont les jeux dans lesquels tu excelles, Hockenberry?
J'ai tenté de pratiquer l'athlétisme quand j'étais bisu, dit Hockenberry. On ne m'a même pas sélectionné.
Eh bien, je dois avouer que je puis tenir ma place à tous les jeux des braves. Mais c'est l'arc en bois que je manie le mieux. Entre tous mes camarades, c'est ma flèche qui la première atteint son homme en la cohue des ennemis, quand même 100 compagnons autour de moi tirent leur arc. Si j'étais prêt à suivre Achille et Hector dans leur guerre contre les dieux, c'est en partie parce que j'avais envie de me mesurer à Apollon, tout en sachant au fond de moi que c'était pure folie. Chaque fois qu'un mortel veut rivaliser avec un dieu en archerie, voir ce pauvre Eurytos, roi de Calie, il est sûr de souffrir une mort subite et de ne pas vieillir en son palais. Et jamais je n'oserais défier le dieu à l'arc d'argent, à moins d'avoir en main le plus puissant de mes arcs. Et je ne l'emporte jamais quand je m'embarque pour la guerre à bord d'une nef noire. Cet arc orne le mur de ma demeure. Je le tiens d'Iphitos, qui me l'a offert en gage d'hospitalité lors de notre première rencontre. Et il le tenait de son père, le valeureux Eurytos en personne. J'aimais bien Iphitos. Et je m'en veux de lui avoir donné une épée et une lance ordinaire en échange de cet arc, le plus beau du monde. Iphitos a péri des mains d'Héraclès avant que j'aie pu le connaître vraiment. Quant à la javeline, je la lance aussi loin qu'un archer lance une flèche. Tu m'as vu pratiquer la lutte et le pugilat. Quant à la course, oui, tu m'as vu battre Ajax. J'ai suffisamment d'endurance pour courir des heures sans jamais régurgiter mon petit déjeuner. Mais lorsqu'il s'agit de rapidité pure, j'ai besoin de l'intervention d'Athénée pour ne pas être distancé par les meilleurs.
J'aurais dû être sélectionné, marmonne Hockenberry. Les épreuves d'endurance, c'était mon fort. Mais ce crétin de Brad Murloff, on l'appelait Coin-Coin, a été choisi à ma place.
L'échec a un goût de bile et de vomi de chien,
déclare Odysseus.
Honte à l'homme qui s'habitue à ce goût-là.
Il s'incline la tête en arrière pour avaler une goulée de vin, puis s'essuie sa barbe maculée de gouttelettes.
J'ai rêvé que je rencontrais Achille dans les sombres cavernes de l'Hadès, mais j'aurais préféré avoir des nouvelles de mon fils Télémaque. Si les dieux m'envoient des rêves, pourquoi n'y retrouvais-je pas mon fils? Ce n'était qu'un enfant lorsque je l'ai quitté, un garçon timoré qui attendait d'être mis à l'épreuve. Et j'aimerais savoir s'il est devenu un homme ou bien l'une de ces femmelettes qui s'incrustent chez leurs supérieurs, cherchent une femme riche à marier, foutent les petits garçons et jouent de la lyre toute la journée.
Nous n'avons jamais eu d'enfant,
dit Hockenberry en se frictionnant le front.
Du moins, je ne le crois pas. Les souvenirs de ma vraie vie sont flous et confus. Je suis pareil à un navire coulé qu'on vient de renflouer, mais où il reste encore de l'eau. On en a pompé juste assez pour assurer la flottaison.
Il y a encore trop de cabines englouties. Vu le regard que lui jette Odysseus, non seulement il ne comprend goutte à son discours, mais en outre, il n'a aucune envie de recevoir des éclaircissements. Soudain, Hockenberry regarde le roi grec droit dans les yeux.
« Réponds à cette question si tu le peux. Qu'est-ce que ça veut dire, être un homme ?»«
Être un homme ?»
répète Odysseus. Il ouvre les deux dernières outres de vin et entend une au scoliaste.
« Oui, pardon, oui !» Être un homme. Devenir un homme. Dans mon pays, le seul rite de passage digne de ce nom, c'est le permis de conduire. Ou alors le dépucelage.
Odysseus opine.
C'est un événement des plus importants.
Mais ça ne peut pas se limiter à ça, fils de Laërte. Qu'est-ce qu'il faut pour être un homme? Ou un être humain en général, d'ailleurs.
Voilà qui s'annonce passionnant,
dit Manmut à Orphu.
Moi-même, je me suis souvent posé cette question, et pas seulement lorsque je cherchais à comprendre les sonnets de Shakespeare.
Nous nous la sommes tous posés, réplique Orphu. Nous qui sommes obsédés d'humanité, c'est-à-dire nous tous les Moraveks, vu que notre programmation et notre ADN nous conduisent à étudier nos créateurs et à tenter de les comprendre.
Être un homme,
répète à nouveau Odysseus d'une voix empreinte de sérieux, mais aussi d'une certaine distraction.
« Pour le moment, je dois aller pisser. Dois-tu aller pisser, Hockenberry ?»«
Je veux dire, » reprend le scoliaste, « c'est peut-être une question de consistance... »
Il doit s'y reprendre à deux fois pour prononcer le mot.
« De consistance ?»« Je veux dire, considérons vos Jeux Olympiques. »
Oui.
« Considérons-les !»«
L'autre Moravec m'a conseillé de pisser dans ses latrines, car elles peuvent aspirer la pisse même lorsqu'elles flottent, comme en ce moment même. Mais j'ai un mal fou à ne pas projeter des gouttes un peu partout. Pas toi, Hockenberry ?»«
1200 ans ! Vos Jeux Olympiques ont tenu 1200 ans !»
poursuit l'intéressé.
« 5 jours d'épreuve, tous les 4 ans, pendant 1200 ans !» Jusqu'à ce qu'un empereur romain intégrisse les abolisse. 1200 ans! Peu importaient les famines et les sécheresses, les pestes et les autres épidémies. Tous les 4 ans, les guerres s'interrompaient et les athlètes du monde entier convergeaient sur Olympie pour rendre hommage aux dieux et se mesurer à la course de chars, à la course à pied, à la lutte, au lancement du disque et du javelot. Et enfin au pancrace, cet étrange mélange de catch et de kickboxing que je ne connais que par les textes, et dont tu n'as même jamais entendu parler, je le parierais. 1200 ans, fils de Laërte. Quand mon peuple a ressuscité les jeux, on n'est pas arrivé à tenir 100 ans sans qu'ils soient annulés pour cause de guerre mondiale, boycottés par l'une ou l'autre grande puissance pisse-vinaigre. Et on a même vu des terroristes massacrer des athlètes juifs.
« Pisse-vinaigre, oui !»
dit Odysseus qui s'accroche à sa gourde et tourne sur lui-même, prêt à regagner sa cabine.
« Il faut que j'aille pisser. Reviens tout de suite. »«
Peut-être que la seule chose consistante, c'est ce qu'a dit Homère. Rien ne vaut le festin, la cithare et la danse, le linge toujours frais, les bains chauds et l'amour. »
« Qui c'est, Homère ?»
demande Odysseus, immobile devant la porte en iris de la bulle d'astrogation.
« Tu ne peux pas le connaître !»
répond Hockenberry en avalant une nouvelle gorgée.
« Mais tu sais quoi ?»
Il s'interrompt. Odysseus est parti. Après avoir franchi le sas du niveau médical, Manmut s'attache par souci de sécurité, bien qu'il soit équipé d'un réacteur dans son sac à dos, et emprunte une série de passerelles, d'échelles et de câbles courant sur la corde de la reine Mab. Il trouve Orphu Dio en train de souder une rustine sur les portes de la soute où repose la Dame Noire, nichée sous les ailes repliées de sa navette.
« J'aurais aimé en apprendre davantage »,
déclare Manmut sur leur canal radio privé.
« La plupart des conversations sont frustrantes »,
rétorque Orphu.
« Les nôtres n'échappent pas à la règle. »«
En général, nous ne sommes pas bourrés lorsque nous causons.
Étant donné que les Moravecs n'ont pas pour habitude d'ingérer de l'alcool, que ce soit pour se stimuler ou se déprimer, tu as théoriquement raison.
Les étincelles du fer à souder illuminent la coque, les pattes et les capteurs d'Orfu.
Mais il nous est déjà arrivé de discuter alors que tu souffrais d'une crise d'hypoxie, d'épuisement généralisé, et même, comme diraient les humains, de trouille bleue. Si bien que l'échange décousu entre Odysseus et Hockenberry n'avait rien de nouveau à mes oreilles, ou plutôt à mes capteurs.
Selon Proust, que faut-il pour être humain? Et pour être un homme d'ailleurs?
S'enquiert Manmuth.
Ah, Proust, ce monsieur si barbant. Justement, je le relisais pas plus tard que ce matin.
Tu m'as dit un jour qu'il a suivi plusieurs chemins pour parvenir à la vérité. Mais je ne me souviens plus s'il y en avait 3 ou 4. En fait, j'ai l'impression que tu ne le savais pas toi-même. Ou alors tu avais perdu le fil de ta propre argumentation.
Non, gronde Orfu. Je voulais être sûr que tu me suivais. C'est tout.
Tu parles. Ça ressemblait davantage à un malaise moravec.
Ce ne serait pas la première fois.
Lorsqu'un moravec entame son 2e ou 3e siècle d'existence, il est fréquent que son cerveau organique ou ses banques de mémoire cybernétique souffrent d'une saturation de données.
Enfin,
soupire Manmuth.
Ça m'étonnerait que les idées de Proust sur la nature humaine soient compatibles avec celles d'Odysseus.
4 des membres pluriarticulés d'Orfu sont mobilisés par son travail de soudure, mais il réussit à remuer les 2 autres.
Si tu te souviens bien, l'amitié, voire l'amour, était l'un de ses chemins. Ce qui le rapproche à la fois d'Odysseus et de notre cher scoliaste. Mais le narrateur de Proust découvre ensuite que sa vocation n'est autre que l'écriture, qui lui permet d'étudier les nuances sous-jacentes aux nuances de sa vie.
Sauf qu'il avait auparavant écarté le chemin de l'art,
contre Manmuth.
Si je me souviens bien, il a fini par conclure que l'art ne le mènerait point à la vérité.
On découvre que l'art est une authentique forme de création,
déclare Orfu.
Tiens, écoute cet extrait du côté de Guermantes. Les gens de goût nous disent aujourd'hui que Renoir est un grand peintre du XVIIIe siècle. Mais en disant cela, ils oublient le temps. Et qu'il en a fallu beaucoup, même en plein XIXe, pour que Renoir fût salué grand artiste. Pour réussir à être ainsi reconnu, le peintre original, l'artiste original, procède à la façon des occultistes. Le traitement par leur peinture, par leur prose, n'est pas toujours agréable. Quand il est terminé, le praticien nous dit « Maintenant, regardez. Et voici que le monde, qui n'a pas été créé en une fois, mais aussi souvent qu'un artiste original est survenu, nous apparaît entièrement différent de l'ancien, mais parfaitement clair. Des femmes passent dans la rue, différentes de celles d'autrefois, puisque ce sont des Renoirs, ces Renoirs où nous nous refusions jadis à voir des femmes. Les voitures aussi sont des Renoirs, et l'eau, et le ciel. » Nous avons envie de nous promener dans la forêt pareille à celle qui, le premier jour, nous semblait tout excepté une forêt, et par exemple une tapisserie aux nuances nombreuses, mais où manquaient justement les nuances propres aux forêts. Tel est l'univers nouveau et périssable qui vient d'être créé. Il durera jusqu'à la prochaine catastrophe géologique que déchaîneront un nouveau peintre ou un nouvel écrivain originaux. Et il explique ensuite que les écrivains font la même chose, Manmuth. Ils font exister de nouveaux univers.
Il ne parle quand même pas de façon littérale. Un écrivain ne fait pas exister de vrais univers.
Je crois bien que si,
répond Orfu sur le ton le plus sérieux que Manmuth lui eût jamais connu.
As-tu suivi les mesures de flux quantique qu'Astikché nous communique sur le canal général?
Non, pas vraiment. La théorie quantique me barbe.
Ce n'est plus de la théorie. Depuis que nous avons entamé ce voyage, l'instabilité quantique entre Mars et la Terre, voire dans le système solaire tout entier, n'a cessé de croître. La Terre est au centre de ce flux. On dirait que toutes les matrices de probabilité spatio-temporelle viennent d'entrer dans un vortex, dans une région de chaos auto-induit.
Quel rapport avec Proust ?
Orfu désactive son fer à souder. La rustine métallique est impeccablement fixée.
Quelqu'un ou quelque chose fout le bordel dans les mondes, peut-être même dans les univers. Si l'on procède à une analyse mathématique de ces données quantiques, le résultat tend à prouver que plusieurs espaces de Calabi distincts tentent de coexister en une seule brane. comme si de nouveaux mondes cherchaient à exister, comme si un génie singulier cherchait à les faire exister, ainsi que le suggère Proust.
Quelque part, à bord de la reine Mab, des tuyères invisibles s'activent et la masse splendide mais mal dégrossie d'acier et de buckycarbone carbone noir bascule et chavire. Manmut empoigne une prise crampon, sentant ses pieds s'éloigner des 300 mètres et quelques du spationef qui se prend pour un acrobate de cirque. Le soleil inonde les deux morts avec, puis disparaît derrière les gigantesques plateaux pousseurs. Manmut règle ses filtres polarisés, revoit les étoiles, et ses Corfu, bien qu'aveugles à leur éclat, captent leur incessant babillage radio, ce cœur thermonucléaire ainsi qu'il l'a naguère formulé.
« Orfu, mon ami, serais-tu en train de virer religieux ?»
Le grondement de l'ionien frise le subsonique.
« Si tel est le cas, et si Proust a raison, s'il suffit pour créer un univers qu'un esprit de génie se concentre sur cette tâche, alors je ne souhaite point rencontrer le créateur de notre réalité actuelle. C'est là l'œuvre d'un esprit maléfique. »
Je ne vois pas comment ce...
Manmut laisse sa phrase inachevée. Un signal vient de retentir sur le canal général.
C'est quoi le code 1201?
La masse de la MAB vient de diminuer de 64 kg, annonce Orfu.
Évacuation d'urine et autres déjections?
Pas tout à fait. Notre ami Hockenberry vient de se téléporter.
Hockenberry n'est pas en état de se TQ où que ce soit. Nous aurions dû l'en empêcher. On ne peut pas laisser partir comme ça un ami bourré comme il l'était.
Manmut décide de garder sa réaction pour lui.
« Tu as entendu ça ?»
demande Orfu l'instant d'après.
« Quoi donc ?»«
Je surveille la bande radio en permanence. Nous venons de braquer l'antenne principale sur la Terre, sur l'anneau polaire pour être précis. Et elle a capté une émission Maser modulée qui nous est destinée. »«
Et que dit cette émission ?»
Manmut sent son cœur organique battre plus fort. Il décide de ne pas réguler le flot d'adrénaline qui déferle sur lui.
« Oui, fait Orfu. Cela provient bien de l'anneau polaire, 35 000 kilomètres au-dessus de la surface. C'est un message prononcé par une voix féminine. Celle-ci se contente de répéter en boucle « Amenez-moi, Odysseus ».